RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. C'est l'heure de Mardi politique et notre invité cette semaine est Thomas Ménager. Il est député du Rassemblement national du Loiret. C'est un des porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors on va évidemment commencer par l'actualité dramatique. À Mayotte, le cyclone Chido a ravagé une grande partie de l'île. Le bilan humain n'est toujours pas connu, mais sans doute très élevé. Et on a beaucoup entendu des Mahorais se plaindre qu'ils ne sont pas considérés comme des Français à part entière. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Oui, mais pas uniquement dans cet épisode tragique que vous avez évoqué, mais depuis des années. Et depuis des années, au Rassemblement national, et Marine Le Pen a un attachement particulier avec Mayotte, avec les Mahorais qui l'ont placé très en tête lors des dernières élections. Parce que c'est vrai que c'est un département français à part entière et qu'on n'accepterait en aucun cas un autre département du continent puisse avoir des services publics, avoir un accès à l'eau, avoir des hôpitaux qui soient dans cet état, avoir une école qui est surchargée. Et cela fait des années, on en a parlé même il y a quelques semaines au moment des débats budgétaires où nous avions appelé à mettre 50 millions d'euros supplémentaires pour l'accès à l'eau. Cela fait des années que cette île est victime de tout un tas de maux, notamment aussi l'immigration.
Alors justement, certains estiment que les conditions de vie et de logement, notamment très précaires, sont le résultat de l'immigration, notamment des Comores voisines. Alors le ministre de l'Intérieur, démissionnaire Bruno Retailleau, s'est rendu sur place et il a affirmé « on ne pourra pas reconstruire Mayotte, je le cite, sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire ». Est-ce qu'il a raison de poser maintenant cette question, ou est-ce que ce n'est pas indécent quand on voit tous ces morts et toute cette dévastation ?
Non, je pense qu'il faut bien entendu que l'action de l'État et de l'ensemble de cette cellule interministérielle se concentre en priorité sur le sauvetage, sur l'accompagnement des victimes, sur le fait de mettre aussi en place, parce que nous avons aussi une députée mahoraise du groupe Rassemblement National qui nous a indiqué qu'il n'y avait même plus de quoi se nourrir, de quoi se désaltérer. Il n'y a plus d'eau, il y a aujourd'hui des télécommunications qui sont bloquées. C'est bien entendu la priorité, mais il est vrai, et Bruno Retailleau a raison de le dire, qu'il faudra régler la question de l'immigration, notamment l'immigration issue des Comores, d'entreprendre des vrais changements, en mettant fin notamment au droit du sol, qui est la seule possibilité, parce que l'on sait que les services publics, que l'île n'est absolument pas adaptée à la population réelle, qui est totalement décorrélée de la population que l'on peut avoir des données INSEE, parce qu'il y a une immigration massive qui a engorgé l'île.
Alors, on sait que le droit du sol a déjà été restreint. Il y avait une proposition de loi qui était portée par une des députées de Mayotte, Estelle Liosoufa, qui appartient au groupe Liotte, pour abroger le droit du sol. Est-ce que vous y êtes favorable à une abrogation pure et simple, sans exception, du droit du sol à Mayotte ? Et est-ce que le RN compte porter une proposition de loi à l'avenir ? Et rapidement.
Dès 2018, Marine Le Pen avait proposé notamment des mesures spécifiques à Mayotte et la suppression du droit du sol. Et bien entendu, ce que porte notre collègue Estelle Liosoufa, qui connaît bien ces problématiques de la même manière que Anchia Bamana, notre députée mahoraise, est une solution qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible.
Inconstitutionnelle,
visiblement. Non, ça absolument pas. Et aujourd'hui, nous portons même plus largement une suppression du droit du sol sur la totalité du continent aussi, et pas uniquement à Mayotte, parce que on le voit bien, ce que vit Mayotte, c'est ce que on vit dans une moindre échelle, bien entendu, aujourd'hui en métropole, et qu'il faut à un moment dire stop à cette immigration, ce qui n'empêchera pas de continuer à avoir des personnes qui arrivent sur notre sol de manière régulière, à avoir des naturalisations. Mais aujourd'hui, il faut dire stop à cette immigration incontrôlée, parce que s'il y a eu aussi et qu'il y a malheureusement un bilan dont on ne connaît pas encore la teneur précise, mais qui est dans tous les cas effroyable, c'est aussi parce que on n'a pas la possibilité de loger toutes ces personnes, qu'il y a eu des logements de fortune, des bidonvilles qui se sont développés, et un échec de toutes les politiques qui ont été mises en place ces derniers mois, ces dernières années, même celle qui avait fait beaucoup de communication, qui était celle de M. Darmanin, l'opération Wambushu, qui n'a absolument pas porté réellement ses fruits, puisque si vous ne stoppez pas réellement à la source, les causes des problèmes, c'est-à-dire l'arrivée massive de Comoriens sur Mayotte, vous ne réglez pas le problème.
Alors, à cette polémique sur l'engagement de l'État depuis des années à Mayotte, il y a eu aussi celle du nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui est allé dans sa ville de Pau pour présider le conseil municipal. D'après beaucoup, et pas que ses ennemis politiques, il aurait plutôt dû aller à Mayotte. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'a dit ce mardi. Est-ce que pour vous, c'était une véritable faute Il s'en est défendu lors de questions à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une faute ou est-ce que c'est un détail pour vous?
Je considère qu'il y avait quand même un problème de timing, qu'il aurait peut-être été préférable, vous le dites, et un certain nombre l'ont fait remarquer, qu'il aille à Mayotte. Mais moi, j'ai pas envie de polémiquer quand on voit la situation, et ce que j'attends de ce Premier ministre, c'est pas qu'il se déplace, mais qu'il agisse, et qu'il veille à ce que tous les moyens de l'État soient mobilisés. Et nous avions, lors de la rencontre qui a été faite entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce lundi, à Matignon, demandé que des fonds européens soient mobilisés, notamment le FEDER, le FSE+, que nous demandions aussi l'engagement de l'aide internationale, notamment de l'Afrique du Sud, qui est à proximité aussi, qui pourrait apporter
un soutien. La France ne semble pas très partante sur...
Nous le regrettons. Nous considérons que quand il y a une catastrophe
l'Inde,
telle que
celle-ci, la Chine, peu importe,
telle que celle-ci, alors il y a des pays avec lesquels nous avons demandé en priorité l'Afrique du Sud qui est à proximité. Il faut y réfléchir progressivement. L'État et la nation doivent être pleinement mobilisés. Mais il y a une distance qui existe, dont on ne peut pas nier l'existence géographique, et que les difficultés d'accès font qu'il faut peut-être aussi avoir l'humilité quand il y a une catastrophe comme cela.
C'est de la fierté mal placée de ne pas demander de l'aide.
Je n'ai pas l'ensemble des éléments que peuvent avoir la cellule interministérielle, mais s'il y a aujourd'hui capacité à mobiliser encore plus de moyens financiers de secours en demandant l'aide internationale, il faut avoir aucune fierté, parce que l'objectif, c'est de sauver des vies et d'accompagner nos compatriotes maorais dans cette tragédie.
Alors, Marine Le Pen, vous avez mentionné sa rencontre avec Jordan Bardella et le nouveau Premier ministre, et elle est sortie plutôt satisfaite. Elle a dit on a été écouté. Est-ce qu'on a été entendu? On le verra. On a l'impression quand même que du côté du RN, et votre réaction à propos de la visite à Pau et tout ça le laisse entendre, une certaine mensuétude envers François Bayrou qu'il n'y avait peut-être pas envers Michel Barnier, même si Michel Barnier, sur l'échiquier politique, est quand même plus à droite que François Bayrou. Pourquoi?
Vous savez, François Bayrou, en choisissant de recevoir en premier, dans l'ordre du poids politique, le Rassemblement national...
Contrairement au président.
Contrairement au président qui fait le choix souvent d'évacuer d'un coup de main les 11 millions d'électeurs qui soutiennent le Rassemblement national et qui ont fait nous le premier groupe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a acté, en recevant en premier Jordan Bardella et Marine Le Pen, que nous étions la première force politique de ce pays et qu'il y avait eu un changement lors des élections législatives de juin et juillet dernier. C'était déjà un signe de respect de nos électeurs. Et nous, c'est déjà un des éléments moteurs de notre mandat, c'est de faire respecter nos électeurs qui ne sont pas des sous-citoyens, qui doivent être respectés.
Mais on se souvient qu'au début, avec Michel Barnier, c'était pareil. On avait dit, moins enthousiaste, mais il est à l'écoute.
Qu'aujourd'hui, nous, on a acté aujourd'hui qu'il n'y avait pas de majorité dans cette Assemblée nationale, que nous n'en avions pas non plus. On le regrette au vu des événements qui ont pu se passer, qui aurait dû être autrement, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a trois blocs et que dans l'intérêt général, dans l'intérêt du pays, quand bien même ce n'est absolument pas de notre famille politique, quand bien même nous serons dans l'opposition à François Bayrou, on a intérêt, dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la nation, et encore plus quand il y a des catastrophes comme celles que l'on vit aujourd'hui dans un département français qu'est Mayotte, d'essayer d'espérer la capacité d'écoute, de travail, de compromis et d'être dans une position constructive. Et d'espérer surtout que le Premier ministre et son gouvernement le seront eux aussi, ce que n'a pas réellement été Michel Barnier, qui a donné le sentiment dans un premier temps, mais qui a peut-être écouté, mais n'a jamais entendu.
Alors, on sait que vous avez des lignes rouges. Vous avez estimé en effet que Michel Barnier ne vous avait pas écouté, ou alors trop peu ou trop tard. Est-ce que François Bayrou s'est engagé? On va être assez concret. On dit... Les socialistes, à la sortie de leur rencontre, ont dit qu'ils semblaient prêts à reposer la question de la réforme des retraites. Le Parti socialiste semble ne plus demander l'abrogation pure et simple, ce que demande le nouveau Front populaire, mais une suspension de cette réforme des retraites et peut-être une grande conférence sur le financement des retraites. Est-ce que ça, ça vous va ? Est-ce que ça, ça vous va ? Est-ce que vous demandez toujours l'abrogation pure et simple de cette réforme ?
Nous, on demande aujourd'hui, bien entendu, l'abrogation de cette réforme.
Pas la suspension.
La suspension, ça serait déjà une bonne nouvelle pour les Français, pour ceux qui n'arriveront pas jusqu'à 64 ans.
Ce serait acceptable. Vous
savez, oui, enfin, ça serait acceptable dans un premier temps. Et nous, nous appliquerions le programme qui est celui de Marine Le Pen, qui est de mettre un âge de départ à la retraite à 62 ans et 42 annuités et 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans, quand nous aurons une majorité. Dès lors que nous n'avons pas de majorité, il faudra accepter des compromis et la suspension de cette réforme et de débattre aussi d'un certain nombre de critères autour de la pénibilité, autour de départ progressif à partir d'un certain âge pour essayer de limiter les situations d'injustice sociale de cette réforme, bah, seraient des avancées. Nous, on vote toujours ce qui va dans le sens de l'intérêt général, même si c'est imparfait, même si c'est insuffisant.
Si il ne propose pas de nouvelles lois sur l'immigration, ce qu'avait promis Michel Barnier, est-ce que ça, c'est une ligne rouge pour vous ? Ou vous dites, si on applique déjà les lois existantes, avec les décrets d'application qui traînent et tout ça, ça nous suffit ?
On a fixé trois priorités, trois lignes rouges indirectement, qui sont de s'occuper du pouvoir d'achat de nos compatriotes, des classes populaires, des classes moyennes, d'aller sur des débats profonds, en profondeur, sur la question de l'immigration et de la sécurité. Donc si... Dans tous les cas, au vu des résultats en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, vous avez un Premier ministre qui demain vous dit « on ne traitera pas de ces sujets », j'avoue que ça serait compliqué parce que c'est des mots qui sont véritables, qui se constatent sur le terrain et qui sont dans les priorités des
Mais
Français.
Mais pas forcément une nouvelle loi donc. Ça peut être des discussions sans une nouvelle loi parce que Bruno Retailleau l'avait promis, Michel Barnier aussi.
Nous le demandons.
Après, mais si on ne vous l'octroie pas
Vous savez, c'est un équilibre général. Jusqu'au moment du mois de juin où il y aura la possibilité d'une nouvelle dissolution, il faudra après se poser la question si ce gouvernement ne règle pas les problèmes qu'il y ait une nouvelle dissolution, qu'il y ait une réelle majorité, parce qu'aujourd'hui, c'est cette difficulté et ces trois blocs issus de ce parti unique qui s'est désisté les uns pour les autres au moment des élections législatives qui a entraîné cette difficulté à gouverner. Donc, si un Premier ministre, demain, refuse totalement tout débat ou sur au moment des débats sur le budget, parce que ça, nous l'aurons, peu importe une loi sur l'immigration ou non, sur la question de l'aide médicale d'État, sur la question des budgets...
Vous demandez toujours sa suppression ?
Nous ne demandons pas la suppression stricto sensu, nous demandons le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence avec un panier de soins réduit pour que, bien entendu, on puisse traiter les urgences médicales, les cas d'épidémie, mais qui n'existent pas dans d'autres pays comme l'Allemagne qui a un panier de soins beaucoup plus réduit.
Ça, c'est une ligne rouge pour vous ?
Ah bah, aujourd'hui, je pense que si le budget qui est proposé par M. Bayrou augmente l'aide médicale d'État et propose, comme ça avait été le cas de M. Barnier, un déremboursement des médicaments, les lignes rouges ne changeront pas. Nous serons cohérents sur nos lignes rouges et notre défense des Français.
La proportionnelle, il vous l'a proposée vaguement lors de cette réunion ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté concrète d'avancer sur ce sujet qui lui est cher et vous est cher aussi ?
En cohérence, c'est dans son programme politique, dans ses combats et nous partageons cette volonté d'une proportionnelle qui serait une proportionnelle avec une prime majoritaire pour qu'il y ait un groupe qui se détache, qui ait une majorité pour gouverner, à la fois de la proportionnelle pour apporter de la représentativité et une prime majoritaire pour assurer de la stabilité. Donc, ça a été évoqué. Après, aujourd'hui, François Bayrou, au cours de ces échanges, n'a rien acté, rien validé. Et je pense qu'il le fera, je l'espère du moins, lors du discours de politique générale qu'il tiendra au mois de janvier, dans les premiers jours de la reprise des travaux parlementaires.
Le 14 janvier. Je veux en venir rapidement à l'actualité internationale. En Syrie, la situation a évidemment beaucoup changé. La France a envoyé une délégation officielle qui a rencontré les nouveaux maîtres de Damas, le Hayat Tahrir al-Sham, connu sous son acronyme HTS, est toujours classé comme un groupe terroriste. Les diplomates, d'après le Quai d'Orsay, ont demandé une transition inclusive, la poursuite de la lutte contre le terrorisme, notamment contre l'État islamique. Est-ce que vous jugez que c'est le bon timing ? Est-ce que la France va trop vite ? Est-ce qu'il faut peut-être se méfier de ce groupe et du fait qu'ils sont quand même dans la mouvance islamiste, même s'ils se disent aujourd'hui bien plus modérés ?
J'avoue que je suis très inquiet, bien entendu, parce que quand des personnes sont issues des rangs de Daesh, des proximités avec Al-Qaïda, c'est-à-dire des mouvements terroristes, islamistes, qui ont causé la mort de nos compatriotes lors des différents attentats que nous avons vécus ces dernières années, bien entendu qu'il faut qu'il y ait de la part du Quai d'Orsay, de la part de la diplomatie française, une prudence qu'un grand nombre de pays européens...
On se précipite
un peu. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle était la nature précise de l'envoi de cette délégation. Je n'ai pas forcément tous les éléments pour pouvoir en juger. Mais j'interpelle, bien entendu, sur la prudence vis-à-vis des relations qu'on pourrait avoir avec de tels groupes qui peuvent et qui seront vraisemblablement, malheureusement, au vu de leur idéologie, des menaces sur la question des libertés, sur les droits des femmes, sur tout un tas de sujets qui sont à l'opposé des valeurs que l'on défend en France et qui parfois peuvent menacer les intérêts français. Mmh. Et puis aussi parce que ce bouleversement, même s'il était entre guillemets bienvenu, parce que le départ d'un pouvoir autoritaire brutal qui est celui de Bachar al-Assad.
C'est ce que j'allais dire, on ne peut pas dire que Bachar al-Assad.
Mais c'est triste de voir que les Syriens ont le choix entre, excusez-moi de la comparaison, mais entre la peste et le choléra, entre un pouvoir autoritaire brutal, violent, qui était celui de Bachar al-Assad, et un pouvoir qui n'est pas un pouvoir qui défend les libertés, qui permettrait au final d'avoir ce que l'on pourrait attendre pour les Syriens.
Jordan Bardella avait évoqué, immédiatement après la chute de Bachar al-Assad, un risque migratoire, en affirmant que des Syriens allaient venir et tout ça. C'est plutôt l'inverse qui semble se produire. Les Syriens ont plutôt envie de rentrer chez eux. Il n'y a pas de risque migratoire en raison de ce qui se passe en Syrie.
Après, il peut y avoir, quand il y a, aujourd'hui, il y avait un peu de camp, quand il y a l'un qui était au pouvoir, qui était Bachar al-Assad, il y avait eu une fuite d'un certain nombre de Syriens que l'on a accueillis et qui aujourd'hui, vraisemblablement, s'ils avaient fui le pouvoir de Bachar al-Assad, devront retourner progressivement dans leur pays et qu'il n'y aura plus d'intérêt à accueillir dans le cadre de l'asile. Après, quand il y a des bouleversements tels que cela, on ne sait pas comment vont réagir d'autres groupements et qu'il peut y avoir des persécutions qui peuvent exister aussi, notamment vis-à-vis des chrétiens d'Orient, parce qu'on sait que l'obédience idéologique de ces djihadistes, comme vous l'avez dit, de HTS, qui est proche d'un fondamentalisme islamiste, il faut le dire, peut avoir donné lieu à des persécutions sur les femmes, sur des minorités, et notamment sur les chrétiens d'Orient, et donc sur la nécessité de flux migratoires nouveaux en Europe.
Très rapidement, je vais en venir à ce qui s'est passé aujourd'hui à Moscou. Il y a une attaque à la bombe revendiquée par les services secrets ukrainiens qui a tué le général Igor Kirillov, qui commandait les forces de défense radiologiques, chimiques et biologiques russes. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce que vous pensez rapidement que Donald Trump peut, en effet, comme il l'a promis, mettre fin à la guerre en appelant Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine?
Bon, c'est un acte de guerre. Ça rappelle que même si médiatiquement, c'est plus forcément au cœur des actualités, il y a encore une guerre, encore des morts et encore un conflit qu'il faudra régler par une issue diplomatique parce que ça sera la seule solution. Donc, est-ce que Donald Trump est, entre guillemets, la solution? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous, depuis des mois, nous appelons à ce qu'il y ait à un moment, et la France devrait avoir cette capacité diplomatique d'agir sur la scène internationale pour convoquer une conférence internationale pour la paix et pour